Pulsar.
Yes, yes, bonsoir à tous et bienvenue comme tous les mardis 21h-23h sur les ondes de Radio Pulsar 95.9 FM pour 2 heures de musique, 2 heures de son, 2 heures de dub. L'émission c'est Culture Dub. Alors ce soir, une émission spéciale en première heure, une émission consacrée à Rastafari. Et oui, il y a des invités dans les studios de Radio Pulsar ce soir, en compagnie de Boris Lutani et de Johnny Jolik, pour nous parler du bouquin Rastafari, de la révélation à la révolution. Donc une première heure avec pas mal de titres consacrés à Rastafari, en compagnie de Ras Michael, de Abyssinians, de Culture, Cedric Ambrose, The Smiths, Brayton Levy, Prest Morgan, Jimmy Riley, The Viceroy, Bob Marley, Dub Judah. Restez bien accrochés, on va plonger dans le milieu Rasta de ses origines jusqu'à nos jours. Et puis ensuite, on ira du côté de la culture dub, bien sûr, avec les news en compagnie de Bid qui nous vient du Brésil, de Minside Dub, du dub maltais, de Riddim Tuffa, d'Écosse, enfin plein de beaux mondes. On aura aussi, bien sûr, un morceau en compagnie de Jorlik Jolik qui a enregistré sa dernière plate avec On Dub Ground. Et puis une petite Strictly Vinyl Selection en deuxième heure en compagnie, alors là, de plein de belles surprises, des news toutes fresh, en compagnie de Chanel One, de Kinger's Quake, de Dub Conductor, de Sister Sunshine, de Christina Delcy, de Radical Guru, pardon. Et puis pour clôturer cette émission de ce mardi 15 janvier live on direct, des remixes français en compagnie de Injam, de Tetro Hydroka et puis bien sûr de Stepart. Allez, montez le son, montez les basses, on est ensemble jusqu'à 23h et c'est Culture Dub. Allez, on va commencer et introduire cette émission première heure spéciale, donc consacrée à Rastafari, de la révélation à la révolution, par un petit dialogue de Ras Biga sur la compilation Rastafari Elders. C'est parti pour annoncer cette émission live and direct. Montez le son chez vous.
Il Rastafari, life giver of creation. As you can see, but Psalm 68 has told us that you must hail him that ride upon the wings of the wind, by his name Jah. Rastafari, coming through the lineage of Solomon and Sheba, and he was crowned 1930 King Tafari. I and I praise that said one from such time until this time.
Yes, c'était Ras Biga. Eh, bonsoir Boris.
Bonsoir à tous, merci de ton invitation, merci à Julien également.
Ah, écoute, c'est toujours un plaisir de te recevoir dans les studios de Radio Pulsar. Ça c'est Ras Biga sur l'album Rastafari Elders, que j'ai découvert grâce à toi il y a un petit moment déjà, quand on avait préparé une émission. Et écoute, ça va annoncer l'émission qui arrive. Je suis au compagnie aussi, on a oublié de le dire, de Loub, de Nico, de Margot Dub. Ah, le studio est bien complet ce soir, bonsoir à tous.
Salut.
Et puis il y a Jornik Jolik qui se prépare tranquillement, qui vient de découvrir les nouveaux studios de la radio du côté de la MDE. Ah, ça fait plaisir de vous voir tous là, comme ça dans l'émission. Jornik, pile poil en face de moi là. Et ça, c'est un grand voyage qui s'annonce. Boris, merci de ta venue. La dernière fois qu'on t'a reçu, c'était pour l'entretien avec Hélène Lee, la sortie du premier Rasta en DVD.
Ouais, effectivement, c'était il y a quelques temps déjà.
Il y a un an tout pile, je crois.
Il y a un an tout pile.
Ah, c'est pas joli ça. Ouais. Et ce soir, on t'accueille pour ta nouvelle sortie, Rastafari, de la révélation à la révolution. Coécrit, on peut dire, en compagnie de Jex Omiak.
Ouais.
On en parlera tout à l'heure. Hein, et puis,
C'est important de le rappeler parce que c'est vraiment une figure majeure. Hein, en anthropologie, aux États-Unis, c'est vrai qu'il est méconnu en Europe, hein, mais il faut savoir que le mouvement Rastafari a été très largement étudié par des très grandes figures de la sociologie, de l'ethnologie, de l'anthropologie. Et il a organisé une très grande exposition dans le plus grand muséum d'histoire naturelle aux États-Unis, à Washington DC, qui a rassemblé quand même quelques 7 millions de visiteurs en l'espace de 4 ans. On a du mal à imaginer ici, hein. C'est une très grande institution reconnue et pourtant ça a accueilli
un mouvement pas forcément encore très reconnu, mais en tout cas ça fait peut-être partie du mot révolution dans ton bouquin.
Ouais, il y a aussi une révolution des mentalités qui tarde un peu à venir, hein, je trouve, en France. en Europe plus précisément, mais...
On va plonger dedans voilà. Hein, à travers ton bouquin, parce que tu nous comptes tout ça à travers un superbe essai du début de l'aventure Rastafari, qui est une aventure au tout début, mais qui est devenue une philosophie, puis quasiment une religion. Mais on va se plonger dedans tout de suite.
Je te corrige, excuse-moi. Hein. Mais moi, j'aime pas trop le terme de religion, et puis je crois que les Rastas également, parce que les religions, ça... Il y a toujours l'idée, voilà, que ça traverse comme une vision de la société, du pouvoir, de l'instrumentalisation éventuellement des esprits. Donc c'est plutôt une spiritualité libre, à mon sens, qu'une religion.
Ah, et là on plonge dedans. Et tout de suite, New Name, Ras Michael. Ras Michael que tu cites beaucoup, il y a un petit passage discographie à la fin du bouquin, et tu mets plusieurs titres de lui. Et celui-là qui est quand même un hymne of Rastafari, New Name, Ras Michael and the Son of Snegus. Accrochez-vous, c'est Culture Dub. On est ensemble avec Johnny Jolik, Boris Lutani. Et puis retrouvez-nous www.radio-pulsar.org, Lagrange Direct, 95.9 FM. Ras Michael dans Culture Dub.
Out of the mouths of babes and sucklings are thou adding strength to still enemies and the avenger. With thy new name, O Jah Rastafari.
Donc voilà, ça vient de paraître il y a quoi, un petit mois, ce nouveau livre, tes nouveaux écrits, Rastafari de la révélation à la révolution, aux éditions Geoffrin Garin. On peut juste citer pour ceux qui te découvrent, mais maintenant quand même, ça fait un petit moment, tu as quand même écrit pour pas mal de magazines, dont Watch This, Radical, Raga, Reggae Vice Magazine, toujours actuellement, on retrouve tes articles toujours, tous les deux mois dans ce magazine. Et tu as écrit deux bouquins aux éditions Chat Noir Éditeur, qui étaient tes propres éditions, Introduction au mouvement Rasta en 99 et Jah Rastafari à
BCDR. D'ailleurs, sur ce point, je tiens à signaler qu'à l'origine, le Chat Noir Éditeur, c'était une édition étudiante. Quand j'étais à la fac, en fac de lettres, on l'avait cofondé avec d'autres étudiants. Et le premier ouvrage d'introduction avait été financé par l'université de Poitiers, qui à l'époque ont favorisé pas mal l'interdisciplinarité. Donc moi j'étais en lettres, mais bon, les Rastas ils s'intéressent beaucoup aux mots, au langage. Et donc ça traversait un peu les disciplines avec la socio, l'anthropologie, tu vois, les langues et tout quoi. Donc c'est eux qui avaient financé le.
Donc c'est un peu un retour aux sources pour toi, parce qu'on est un peu dans les locaux à l'université de Poitiers.
Je suis un peu aimé, effectivement.
En tout cas, moi je tiens à dire que ces deux bouquins, ils sont très importants à découvrir. On les trouve encore hein, à droite à gauche dans des nouvelles rééditions. pour pouvoir aborder celui-là, parce que voilà, celui-là c'est quand même un essai assez puissant qui plonge vraiment dans l'intérieur de Rastafari et qui tente à éloigner l'image que l'on peut avoir de ce qu'est Rasta juste avec le reggae, la fumette, le plaisir, le sourire. On va bien au-delà à l'intérieur de ton nouvel ouvrage que je considère, et je tiens à le dire, vraiment comme un essai.
C'est un essai, effectivement.
Il n'est pas énorme à lire, mais il est très, enfin, je dirais en taille, il y a 7 chapitres, je crois, à peu près. Mais par contre, il est puissant quand on est dedans, parce que chaque phrase, chaque mot, et ça, c'est du Boris Lutani, je dis toujours, préparez le dictionnaire à côté de vous. C'est chaud, même il y a plein d'annotations à la fin. C'est un très, très beau livre. Comment t'es venu l'idée de ce livre ? La rencontre avec Jack Somiak
Ouais, c'est vraiment la rencontre avec Jack, hein, qui a initié, en fait. Enfin, pour moi, Jack, c'était le. Et c'est toujours le. Le mot spécialiste, j'aime pas trop. Jack Somiak, il a commencé à étudier le mouvement Rasta de l'intérieur. C'est-à-dire qu'il est parti en Jamaïque en 1980. Et depuis lors, il n'a cessé d'explorer le mouvement Rastafari avec les Rasta. J'insiste bien sur ce point, parce que c'est vraiment de l'observation participative. C'est-à-dire qu'il a gagné leur confiance par son respect, quoi, par le respect de son regard.
Il en parle de l'intérieur.
Voilà,
il n'a pas juste une vision.
Exactement. Et c'est pour ça que il s'est jamais cramé, parce que vraiment c'est quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle, mais qui a développé un regard sur le mouvement Rasta qui est extrêmement juste, que moi je pourrais pas acquérir à mon avis. Moi j'aborde plus là, un peu la dimension historique, et lui il a ce regard anthropologique en fait qui est un peu transversal, qui traverse tous ces domaines-là, et il a participé à la vie des Rasta. Hein. Il a participé à la vie des patriarches Rasta, nés à Bigny dans les montagnes, etc.
Il a
vécu avec eux.
On viendra après, mais tu t'es quand même aussi plongé dans l'intérieur, parce que tu as été allé participer, participer à ces Groundation en Jamaïque. Toi aussi, tu t'es plongé.
Ouais, mais dans bien moindre mesure. Lui, ça fait 30 ans, quoi, qu'il est sur. 40 ans, même presque, qu'il est.
On l'avait vu, on avait publié sur Culture Dub les images de l'exposition, et c'est vrai que c'était très respecté. Il y avait pas mal de Rasta, d'ailleurs, qui sont venus découvrir.
Énormément de Rasta.
Leur propre mouvement. Mm-hmm. Donc, alors voilà, ton livre, c'est pour. On plonge dans l'univers Rasta de ses débuts aujourd'hui. Pour toi, ça commence quand, Rastafari ? Parce que tu nous parles des années, carrément, des années 20, 1920, qui, donc, introduit par des livres. Il y a beaucoup d'histoires de symbolique, hein, de livres, d'interprétations. Pour toi, quel moment
Je précise bien, pour moi, le mouvement Rastafari, il commence historiquement, j'entends bien, dès l'annonce, en fait, du couronnement. Du roi des rois, en fait, de l'empereur d'Éthiopie, Haïlé Sélassié, qui est couronné, enfin, c'est Rastafari qui est couronné, en fait, le 2 novembre 1930, et qui va hériter d'un certain nombre de titres bibliques, en fait. Et de l'autre côté de l'Atlantique, il y a un certain nombre de personnes qui étaient déjà dans l'attente, qui nourrissaient déjà une attente et de grands espoirs, et qui avaient les regards tournés vers l'Afrique, et qui avaient entendu un certain nombre de prophéties, qui avaient lu la Bible, parce que la Bible, en fait, c'est constitué un des seuls livres, en fait, hein, qu'ils pouvaient consulter, qui se sont réappropriés. Parce que la Bible, ça aussi, pendant un moment, était, on en a parlé tout à l'heure, hein, un peu en off, ça a été un instrument d'oppression, en quelque sorte, qui a accompagné l'esclavage. Donc il y a eu aussi, la Bible a accompagné cette conversion forcée par la suite. Et eux, ils se sont réappropriés cet instrument qui, à l'origine, avait accompagné cette coercition, cette servitude. Ils l'ont détourné, ils se le sont réapproprié. Et ils ont confronté cela avec ces événements qui sont apparus en Éthiopie, parce qu'ils avaient ce qu'on appelle l'éthiopisme, en fait. Hein.
Mais alors, parce qu'avant 1930, avant le couronnement d'Haïlé Sélassié, il y avait quand même déjà des personnes qui avaient réinterprété, justement, comme tu dis, la Bible, et qui en avaient fait une sorte de livre, et exactement. Qui était la Bible de l'homme noir, finalement. Et qui,
oui, ils avaient développé une lecture sélective de certains chapitres de la Bible, qu'ils avaient croisés, comme dit Jornic à l'instant, avec d'autres écrits sacrés, antiques, de l'Éthiopie, comme le Kebranagast, comme... d'autres textes qui étaient jugés apocryphes dans le canon protestant ou catholique. Et voilà, en croisant tout ça, hein, c'est un peu au gré du hasard pour certains et puis de la prophétie pour d'autres. Hein. Voilà, ça s'est réalisé à l'aube des années 30. Et à partir de 1932, on a Leonard Well qui rentre en Jamaïque, de retour. Mais les premiers prédicateurs à ça sont les grands voyageurs. En fait, ils sont partis de Jamaïque et après, ils sont partis aux États-Unis, au Costa Rica, à Panama, etc. Ils ont voyagé, ils ont puisé un peu à différentes sources de traditions, etc. Ils sont revenus en Jamaïque, comme Howell, Hibbert et Dunkley ou d'autres. Et ça s'est élaboré un peu comme ça, de façon diffuse au début des années 30. Et ça a pris vraiment corps à la fin des années 40, socialement. avec l'apparence un petit peu dreadful, les dreadlocks, etc., l'apparition de nouveaux codes, ce qu'ils appellent la liberty, des codes de vie, en fait, des codes culturels, et tels qu'on les connaît, qui se sont développés jusqu'à aujourd'hui. Et ça a bien au-delà, encore une fois, c'est pour ça que ce bouquin, il répondait à un peu une nécessité qui n'a pas été comblée par les deux premiers, parce que dans le premier, je survolais un peu. Dans le second, j'avais plus une approche globale, voilà, qui embrassait un peu la totalité du mouvement, mais sans rentrer véritablement dans le détail. Là, on s'est dit, de toute façon, on peut pas... C'est pas possible de tout étudier dans un livre sur le mouvement Rasta. C'est un mouvement qui est extrêmement complexe, très riche. Et c'est même 15 livres, on n'arrivera pas à puiser le sujet. On s'est dit, on va s'axer sur quelques sujets qui ne sont pas forcément comme ça cohérents, en émettre un...
Mais qui font partie de l'histoire, voilà, Rastafari. Alors c'est vrai qu'on retrouve plusieurs sujets. On retrouve le sujet de l'origine sur la Bible de l'homme noir. On retrouve un sujet sur tout ce qui va être le Naya Bengi, ouais, qui est très important. On retrouve un sujet évidemment sur Bob Marley, qui a été le messenger, celui qui l'a transporté. On retrouve comme ça différents...
Que Jax a rencontré d'ailleurs. Et d'ailleurs, juste une petite parenthèse... Hein. Pour Jax a rencontré Bob Marley d'ailleurs avec des représentants de l'ordre de Yabingi, des patriarches, et il a été témoin en fait que Bob Marley finançait aussi ce mouvement pour que les gens se réunissent, etc., les plus pauvres. Hein, donc ça montre bien aussi que toutes les langues de vipère qui se sont déployées sur Bob Marley en disant qu'il avait été acheté par l'industrie de Babylone, etc., que tu vois. Ça montre bien la réalité, hein, de cet homme. Peut-être effectivement qu'il est parti, mais c'est lui qui a diffusé.
Oui, il l'a diffusé. Et puis c'est aussi, on s'intéresse à Bob, il n'y a pas que la période Island avec Chris Blackwell. Il y a avant, quand il enregistrait, ouais, ouais, des choses qui sont sorties bien après. D'ailleurs, c'est assez rigolo.
Mais là, je te parle de la fin de sa vie, en 80.
Même à la fin, ouais, complètement. Il a toujours propagé, mais il avait quand même eu une éducation. Il a été éduqué à Rastafari. On le retrouve sur, ouais, des albums avec Jai The Chapel, avec des super morceaux comme ça. Écoute, on va passer en musique aussi pour passer un peu de morceaux. Il y a les Abyssinians, ça c'est une demande de ta part, avec le morceau Mabrak. Ouais. Alors moi, dans la playlist, avant de t'appeler, j'avais mis Sata Masagana, et
ouais,
vraiment
c'est
logique.
C'est,
hein. Et puis je t'ai rappelé, puis tu m'as dit, mais Mabrak. Et en fait, ouais, c'est une version, c'est le même riddim, la version instrumentale, ouais, est la même, mais elle est plus parlée, elle est plus spirituelle que Sata Masagana. Allez, tout de suite, on s'écoute les Abyssinians en compagnie de Boris, en compagnie de Jornik, dans Culture Dub. Ah, attention.
Rastafari, thunderable God, ruler of Zion and earth, worthy to be praised from your rising of the sun and the setting of the same old Jah. Rastafari, there was a marriage in a Yeah.
va parler sur la musique. Et juste en off, il se passe plein de choses. On se dit plein de choses. C'est voilà, c'est très très vivant. Il y a plein de choses à dire sur Rastafari. Je tiens à dire que ça me fait très plaisir. Je le disais juste avant en off, mais d'accueillir Boris et Jornik. Faut avouer que Jornik, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu quand même dans le coin là, et que t'es parti faire un grand voyage toi aussi un peu partout dans le monde. Et merci à toi d'être venu ce soir, de t'être libéré et d'être parmi nous dans Culture Dub. Quoi, c'est un grand plaisir.
Merci de m'inviter, Alex.
Et ben non, bah attends, puis on parlera parce que t'as de l'actualité, tout ça. Donc on va y venir après. Il y a pas mal de choses qui se passent du côté de Poitiers, de la métropole pour toi. Donc on va y revenir juste après. Boris, on continue sur cette découverte Rastafari de la révélation à la révolution. Ton dernier bouquin, coécrit avec Jack Saomiak et aux éditions Geoffrin Garin. On a parlé de l'origine, ce qui a pu inspirer les réappropriations de la Bible. Et il y a des hommes évidemment qui ont fait que des hommes puissants qui avaient un charisme, qui avaient des mots, qui étudiaient. On a beaucoup parlé grâce à Hélène Lee et avec tout ce qui s'est passé du premier Rasta de Leonard Percival Howell. D'ailleurs, il y a un super poème dans ton bouquin qui reprend chaque première lettre du poème. Quand on les reprend les unes dessous les autres, ça écrit L.P. Howell.
Ouais.
C'est assez magnifique, beaucoup de symbolique. Et il y a un deuxième homme qui était aussi là avec Howell, c'est Hibbert. Alors là, on le connaît un petit peu moins. Moi, j'avais déjà lu quelques articles sur Joseph Nathaniel Hibbert. Et toi, tu l'as surnommé le deuxième Rasta, c'est la question, quoi.
Ouais, j'ai bien mis un point d'interrogation.
C'est une question, tout à fait, on est bien d'accord. Alors, il y a toujours eu des importances. Il y a eu la prophétie de Marcus Garvey, il y a eu Powell qui a amené, qui s'est défendu. Et Hibbert, lui, qu'est-ce qu'il
en fait, on a des personnages un petit peu comme cela. Bon, aujourd'hui, ils sont un peu énigmatiques parce qu'il n'y a pas beaucoup d'archives. Il faut vraiment les fouiller, recueillir des témoignages. Puis les personnes qui sont encore vivantes, qui sont témoins, sont de plus en plus rares, bien sûr. Et Hibbert, c'est un personnage qui est extrêmement important. Après, il y a des querelles de paternité, un petit peu savoir qui est le premier, qui est le second, le troisième Rasta, c'est pas trop le propos, quoi. J'ai écrit un bouquin avec, un article avec Robert Hill, qui est un très grand historien jamaïcain, sur le troisième homme, sur un autre premier Rasta qui s'appelle Archibald Dunkley.
Qui étaient tous là ensemble à la même période,
ouais, voilà,
qui étaient à une période clé,
en fait,
finalement,
c'est des
à
marins,
30-40.
Des aventuriers, voilà, des explorateurs qui partent sur les océans. Certains partent en Europe, d'autres partent en Afrique, d'autres encore traversent les Caraïbes, partent sur Harlem, etc. Ils reviennent tous au début des années 30, après l'annonce du couronnement d'Haïlé Sélassié Ier. Et voilà, ils vont.
Ils reviennent parce qu'ils sentent que grâce à ce couronnement, il y a quelque chose qui va se passer. Il y a une prophétie qui s'est réalisée, donc il y a quelque chose. C'est un ressenti qu'ils ont et qu'ils reviennent dans leur île d'origine.
Ouais, voilà, il y a quelque chose comme Bob Marley le dit. Il y a un natural mystique qui flotte, quoi, dans l'air, quoi. Et donc eux, ils rentrent et ils vont matérialiser ça, quoi, dans la rue. En fait, ils vont organiser des meetings de rue et ils vont un petit peu, cristalliser à un moment donné le mécontentement populaire de la population, des bas quartiers, des zones les plus défavorisées, dans les zones rurales, dans les paroisses, etc. Parce que la Jamaïque, à cette époque-là, c'est toujours d'ailleurs très inégalitaire. Et c'est vraiment parmi les populations les plus déshéritées. Il y a un mécontentement qui gronde aussi, parce que c'est un gouvernement qui est colonial. Donc il y a des citoyens de première classe, des citoyens de seconde classe, etc. Et c'est parmi les Noirs, la population noire la plus défavorisée, qui est en rupture de ban avec la société, que va naître ce mouvement, à la fois dans les campagnes et dans les ghettos, dans les slums, dans les shanty towns.
Et est-ce qu'on peut dire que des gens comme Powell ou comme Hibbert, là, sont un peu des prêcheurs, finalement? Ils viennent répandre la parole, leur vision des choses, finalement. On est dans une vision...
Des prédicateurs.
Et on se rend compte, finalement, quand on plonge un peu plus dans la vie de ces personnages, c'est des personnages très intellectuels et ils étudient énormément, ils apprennent, ils fouillent la Bible, ils fouillent les livres, ils vont aux origines. Hibbert, je crois, il connaissait par cœur, il était capable de ressortir plein de passages de la Bible qui l'intéressaient.
Hibbert, c'est un personnage qui est extrêmement intéressant, très ésotérique. Il puise dans différentes traditions maçonniques. C'était un franc-maçon qui avait été initié à Panama, il me semble. Donc il puise dans différentes traditions.
C'est très intéressant ce que tu dis, parce que
tu le dis,
il y avait les pocos, ceux qui faisaient un peu tous les rites, tout ça, mais finalement ça vient pas forcément de la Rasta non plus, ils étaient pas forcément d'accord. Les pocos disaient, les rites pocos disaient, les Rasta c'est n'importe quoi, c'est quelque chose, ils sont un peu fous. Les Rasta eux...
Parce qu'ils sont pas seuls dans ces bas quartiers, il y a une foultitude comme cela de groupes, il y a des revivalistes, il y a plein d'obédiences chrétiennes aussi, un petit peu dissidentes, qui toutes drainent un petit peu. Faut bien comprendre qu'à cette époque-là, le peuple jamaïcain, c'est un peuple qui est très spirituel. Et comme je le disais tout à l'heure, la Bible, hein, c'était un peu un des seuls référents livresques qu'ils avaient, quoi. Donc certains ils voyaient ce qu'ils voulaient y voir, et puis eux, les Rastas, ils disent, ils voient dans la Bible, qu'il y a des signes qu'il est temps de rentrer. Hein, il est temps de rentrer au pays, quoi. Il est temps de rentrer sur le continent des ancêtres et que Babylone va tomber, quoi.
Et
cette situation ne peut pas durer.
Est-ce qu'ils se mettent à lire la Bible et à vraiment l'interpréter et à s'évader avec, parce qu'ils sont sous un empire colonial et que c'est un seul moyen pour eux de pouvoir trouver une sorte d'émancipation, une sorte de... Ouais. C'est ça, finalement.
Bah, tu sais, bien avant les Rastas, les premières révoltes en fait, populaires qui avec les Maroons notamment, qui a aussi avec Paul Bogle, que William Sharp, etc., c'était ceux qui avaient initié ces révoltes contre l'État colonial, contre... cette oppression coloniale, eh bien, c'était souvent des baptistes, hein, des évangélistes, quoi. Voilà, parce que c'était eux qui étaient au contact de la population. Hein, donc,
un peu des missionnaires.
C'était il y avait ce côté un petit peu, au plus près, ils étaient au plus près.
D'ailleurs, les prédicateurs le disent, ne reconnaissez pas la Bible de l'homme blanc, ni du roi Sir Francis, qui était, je crois, le roi anglais, King James.
Enfin, on disait la Bible du roi King James.
Voilà, on disait, c'est la Bible, ne la reconnaissez pas, c'est pas elle la vraie, c'est celle qu'on est en train d'écrire, ou de réécrire et d'interpréter, et vous devez nous suivre dans cette idée-là, dans cette philosophie-là.
Oui, il y a une relecture un peu sélective, comme ça, et puis une lecture un peu interlinéaire, en fait. Ils lisent aussi entre les lignes, quoi. Il y a ce qui est écrit littéralement, et puis il y a l'interprétation après, un peu métaphorique ou prophétique, quoi, des Écritures. Ouais. Donc, c'est intéressant, c'est vivant, c'est...
Finalement, voilà. C'est un peu, je dirais, toutes les croyances, tout ce qui était philosophie, c'est beaucoup d'interprétation. Alors, c'est beaucoup entre les lignes. Non, mais là, on n'est pas dans une croyance.
Mais les Rastas, non, mais je rigole. Mais je veux dire, j'aime bien aussi, bon, tu vois, là, je donne le point de vue des Rastas. Ils disent, un Rasta ne croit pas, il sait. Ouais. Parce que dans Belief, en fait, ça passe pas en français, mais... ils disent pas Belief, parce que dans Belief, t'as lie en anglais, tu vois.
Rasta, no.
Ah, d'accord.
Vois, dans Belief, dans le mot Belief.
Donc, c'est un mot banni de la culture.
Donc, il y a le mensonge, en fait, qui est dans tout Belief.
Jean-Nic, fais gaffe, je vais étudier toutes tes paroles de tes chansons en anglais. Bon, on va continuer en musique. Et une petite erreur, juste avant, on a écouté Mariage in Cana de Culture. J'ai fait une petite plante. Donc, on va vraiment s'écouter le Mabrak des Abyssinians, oui. Hein, parce que t'avais repéré. Jean-Nic avait l'oreille, il n'ose pas dire. Tu as le droit, Jean-Nic. Ton micro est tout le temps ouvert. Chaque chose, tu as le droit de le dire. J'ai fait une grosse bêtise juste avant.
Alors,
tout de suite, on s'écoute le Mabrak des Abyssinians dans Culture Dub. Et on est toujours en compagnie de Jean-Nic Jolik, de Boris Lutani, pour la sortie du bouquin Rastafari de la révélation à la révolution. Ah, ça, c'est...
Hein. Ouh, ouh, ouh.
Ah, yes.
You think I saw? I not saw. The Nastilin. Dana, Xavier, Jimaskan. Sata Amasagana.
This is it. Originally. Thou shalt not steal. Say the Almighty. The King of Kings is here. Rules eternally.
Honor and majesty is before him. A false weakness shall not be unpunished, saith the Lord.
To eat from thine own vineyard is sweet to the soul.
But to steal from thy brethren is bitter to the belly.
Behold, how good and how pleasant it is. Dwell together in unity.
What a great day it will be when God's people shall be free.
There shall be a time of eternal day.
Please lead us to that land, Lord, that is far away.
The gates of Zion are open wide.
In thee, O Lord, we will abide. From my prayer version, that bringeth forth fruit in its season. Sata Amatigana, originally. Love ye one to another. God loves us all. Love me and I love you. God will hear us when we cry. While rolling down this righteous track, we won't be turning back, oh no. Like I said, originally, this is it. Sata Masigana.
Aha, Abyssinians, Mabrak. Et tout de suite, on se l'enchaîne avec Free Up Black Man. C'est encore un choix de Boris Lutanik avec nous dans les studios de Radio Pulsar ce soir pour cette première heure consacrée à Rastafari. Cedric Imbrooks on The Light of Saba, The Magical Light of Saba. C'est l'album sur lequel on retrouve ce morceau Free Up Black Man. Johnny, t'as entendu ce titre-là? Free Up Black Man. On met ça. Ah yes, ça se passe comme ça. Cedric Imbrooks, c'est la culture de... Yes.
You cut the grass, oh, it grows. You cut the birds, then they fly away. Anywhere they want to go, 'cause they were born free. You know they were born free. Man and man was born. Come along and free up the freedom, free up the black man, freedom, oh freedom.
Free up black man. Allez, vous savez quoi, je vais en profiter pour vous lire un petit passage du livre Rastafari, de la révélation à la révolution. On va parler un petit peu de la musique, mais tout de suite, il y a un homme très important qui a beaucoup participé à la musique Naya Bengi, c'est pas Ashanti. Et il y a un texte assez génial, enfin, c'est entre parenthèses, hein, c'est pas Ashanti qui parle et qui raconte c'était une période où le gouvernement avait imposé un couvre-feu au Rasta. Lorsque nous prêchions devant la population, la police nous pourchassait et nous bastonnait. On se sauvait précipitamment, l'un prenait la Bible, un autre la lampe, un troisième emportait le drapeau, mais la table restait toujours derrière nous sur la chaussée. La police la détruisait systématiquement et nous étions toujours à la recherche d'une nouvelle table pour la prochaine assemblée. Et là ça veut tout dire parce que après ils partaient entre eux se rassembler et là entamer les ce qu'on pourrait appeler les Groundations aujourd'hui. Et voilà, la musique.
Ouais, c'est ça exactement. Bah, il le dit d'ailleurs avec un peu l'humour du désespoir, quoi. Ouais. Parce que il y avait une telle violence, hein, faut bien mesurer aussi, hein, les persécutions dont ils étaient l'objet, quoi. C'était plus que Voilà, des simples bastonnades, hein, ça même allait bien au-delà. Ils étaient, voilà, ils étaient incarcérés pour rien. Enfin bon.
Et donc finalement, ils allaient se retrouver autour de la musique, qui était donc la musique Naya Bengi.
Ouais.
Alors, on parle souvent reggae, rasta. Il faut savoir que le reggae, tu me disais tout à l'heure, est né dans les années 60, finalement, vraiment une reconnaissance dans les
à la fin des années 60.
Alors que rasta, c'est depuis les années 20-30, 30 plus pour toi.
Ouais, et
donc, ils avaient quand même leur musique et qui venait des rythmes de tribus d'Afrique noire aussi, et qui étaient venus par l'esclavage.
Ouais.
Et donc, on avait les rythmes bourrous, dont se sert énormément Cedric Haim Brooks, Ras Michael aussi. À l'intérieur, et pas Ashanti finalement était quelqu'un qui avait emmené cette histoire, qui avait emmené la musique, la façon de jouer, la façon de monter les percussions.
Là encore, on a une figure qui est une figure majeure, une figure vraiment historique du mouvement Rasta, mais qui est encore très méconnue, bien plus méconnue que Ras Michael. C'est bien dommage parce qu'il y a une petite anecdote que j'ai pas mentionnée, enfin qu'on n'a pas mentionnée en livre ou peut-être en note, je me souviens plus. C'est que Pa Ashanti a fait un seul enregistrement studio.
Attends,
en fait.
Tu veux dire que tu as eu un nègre pour écrire ce livre? Tu ne sais plus tout ce que tu as mis à l'intérieur?
Un nègre blanc, alors.
C'était une petite blague.
J'en vois un qui rigole pas.
Bien, j'en dis, excuse-moi, pardon.
Ah oh ben,
c'est toi qui as participé à l'écriture, en fait. Tu es caché dans le
livre. Mais oui, c'est lui. Hein.
Donc, Pa Ashanti. Moi, honnêtement, je ne connaissais pas Pa Ashanti.
Ouais, en fait, il y a une anecdote, mais je ne suis pas sûr. Je pense qu'on l'a peut-être zappé dans le livre. C'est Jax qui m'a rapporté ça. Parce que lui, c'était un ami à lui, enfin voilà, et bon, il est disparu malheureusement. Mais le seul enregistrement qu'il a concédé, en fait, à la fin de sa vie, il est allé voir Lee Perry, parce que Lee Perry, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas parce qu'il a pas de locks qu'il est pas rasta. Et dans ce fameux Arche Noire, là, le Black Ark Studio, il est allé voir Lee Perry, et ils ont enregistré un album. En fait, de chant rasta sur les percus rasta.
Sous le nom Pa Ashanti ?
Non, oui, sous le nom Pa Ashanti, Slaughter the Dragon. C'est-à-dire, domine le dragon, enfin,
met à bas, ouais, terrasse, voilà, le dragon.
Terrasse le dragon, exactement. C'est le mot terrassé. Merci, voilà. Jean-Nic. Et c'est ça. Et donc, mais qu'est-ce qu'il a fait après Lipéré ? Bon, il a un peu vrillé. Ouais. Il a cramé son arche.
Les dragons sont venus à l'intérieur de lui,
voilà,
ils l'ont rattrapé et il a mis le feu au Black Ark.
Qui n'était pas totalement terrassé, qu'on cramé l'arche. Je ne sais pas ce qu'il en est.
Il est tombé dans le poteau obscur.
Du coup, tiens, Jean-Nic, tu peux peut-être en parler. Toi, musicalement, il y a tout un code finalement, Naya Bengi, même sur les percussions, qui ont été quand même après reprises par le reggae et qui ont accompagné le reggae. On le retrouve même dans le dub où il y a toujours ces petites percussions. Alors moi, je n'ai pas tous les noms, mais.
Funday, Repeater, et puis le bass drum.
Voilà, où il y en a pas mal qui en jouent. Il y a John Adam qui accompagnait souvent Disciple. Avec les repeaters, il y a pas mal d'artistes comme ça. Toi, ça représente quoi, justement, ces instruments? Est-ce que tu t'en es servi dans tes albums? Est-ce que tu en as écouté? Est-ce que tu as pu... comment ça t'a inspiré, tout ça?
Alors, en parlant des instruments, moi, quand j'ai commencé à jouer de la musique, j'ai pas commencé en tant que chanteur, j'ai commencé en tant que percussionniste. Donc, je jouais de ces tambours et tout ça, de toutes ces percussions. Ce fut, voilà, ma genèse, je fus percussionniste avant de devenir chanteur. Et à chaque fois que j'ouvrais la bouche pour faire les chœurs, tout le monde me disait, mais il faut que tu chantes.
D'accord. Ah ben là, on vient de découvrir. On vient de découvrir. Donc finalement, c'était une importance, le rythme.
Bah ouais,
le
rythme, c'est rythmique qui était perpétué, en fait, qui avait traversé l'océan, hein, qui s'est peut-être modifié ici et là au gré des certains rythmes. Mais je veux dire, le Funday, le Repeater et puis le Bass Drum, chacun, en fait, ça perpétuait les rythmiques. Voilà, du continent ancestral, quoi. Donc c'était aussi garder la mémoire, la pulsation de l'Afrique, en fait, en eux, quoi.
C'était un retour aux sources à travers la musique. Comme
c'était
finalement
fut
le dub pour les immigrés jamaïcains à Londres, après avec le dub, où c'était un retour aux sources à travers les grosses basses et puis s'évader à travers
bien
la
sûr,
terre, à travers les
sûr.
Vibrations. Dès les années 30-40, il y avait
bien
ces
sûr.
Percussions qui ramenaient à l'origine.
Tout ça, c'est lié.
Et à quel moment donc est venu, alors tu en parles aussi dans ton livre, ce mouvement de se dire, ben, à travers la musique, les percussions, on reprend quelque chose de nos racines, et à quel moment est venu cette volonté de se dire, il faut qu'on retourne vers nos racines? Est-ce que c'est Rastafari? Est-ce que ça fait partie de Rastafari ou
ouais.
c'est à côté ou est-ce que c'est comment?
Non, ça fait partie intégrante de Rastafari, c'est la pierre angulaire du mouvement Rastafari, comme... Il n'y a pas que le bouquin dont on parle, il y a aussi le bouquin de Giulia, hein, Bonassi, on en a déjà parlé la dernière fois, Exodus. C'est ça, c'est l'exode noir, c'est le retour, en fait. Est-ce que c'est une terre promise? Là, c'est une vision un peu prospective, ou est-ce que c'est une vision rétrospective? Est-ce qu'on retourne? Voilà, paradis, est-ce que c'est une terre promise, un paradis perdu? Il y a ces deux aspects-là, hein. Il y a l'idée de retourner dans un passé, une espèce d'âge d'or, mais aussi un regard vers l'avant. Hein. Il faut regarder vers l'avant. Rastafari, c'est ça aussi. Il y a cette idée-là de rester debout, hein, rester fort. Et, la vision est importante. Donc, regarder vers l'avant.
Se projeter dans l'avenir. Voilà, mais justement, il y avait... Parce que le retour aux sources, il est...
Mais il y a les voyages immobiles, tu le sais bien, Alex.
Et bien voilà, justement, je voulais y venir. On en parlait un petit peu en off tout à l'heure. On parlait de Zion. Souvent, c'est retourner à Zion. Et tu m'as dit, ouais, mais il y a Kidus Haï qui représente très bien ça. Ouais, qui dit, mais Zion, c'est pas forcément un territoire. C'est quelque chose d'autre.
Il n'y a pas de dogmatique, en fait, dans le mouvement Rasta. Il y a autant de versions du mouvement Rasta qu'il y a de Rasta. Chacun développe son propre raisonnement. Si tu veux, c'est pas comme dans... T'as pas un credo comme ça, dogmatique, qui impose à tous qu'est-ce qui est Rasta, qu'est-ce qui n'est pas Rasta. Chaque Rasta.
Il y en a qui le croient. Hein. Ils sont tellement dogmatiques, ils croient que c'est la vérité. Justement, ça me fatigue cette histoire.
Jornik Jolie qui est avec nous dans les studios. Et Jornik, toi, justement, à quel moment est-ce que tu es né dedans? Enfin, tu as les origines guyanaises, enfin, pas que les origines, hein, tu es né en Guyane. Et à quel moment tu as ressenti cette attirance ou ce mouvement comment toi, tu as été attiré et pourquoi finalement?
Brièvement, ça a commencé quand j'ai eu 13 ans. Aujourd'hui, je vais en avoir 49.
Long, long time.
Et j'ai toujours. Fais les choses selon ce que moi je ressens, pas selon ce que j'entends, que les gens me disent ou qu'on veut m'inculquer ou m'apprendre. Mais je suis toujours ouvert et humble à apprendre. Et quand j'avais 13 ans, j'ai embrassé le mouvement avec vigueur et force, et sans m'occuper des choses arrière et de tout ce qui était autour. Mais ensuite, en grandissant, je me suis libéré de ces choses. Et aujourd'hui, je me dis... que je suis plus que Rasta, je suis plus que chrétien, je suis plus que bouddhiste, je suis plus que hindou, je suis plus que zen, je suis plus que toutes ces religions. Moi, je pense que je suis un être humain. Donc, avec toutes ces choses que j'ai prises partout, ça s'appelle la spiritualité. Et moi, la religion, moi, j'ai fait une croix dessus. Pour moi, je ne suis pas religieux. Moi, je suis spirituel. Et je pense que tout homme devrait embrasser sa passion, sa foi, sa croyance, que tu sois musulman, que tu sois islamiste, que tu sois même quoi que ce soit bouddhiste ou tu vois. Voilà, alors aujourd'hui voilà où j'en suis moi. Le mouvement Rasta pour moi c'est une chose qui m'a fait reconnaître ma négritude, ma racine, puisque j'en suis conscient. Je suis né noir et je suis heureux d'être né noir. J'aurais pu être blanc ou jaune, j'aurais aimé ma personne pareille, parce que pour moi c'est au-delà de l'humain ou la religion ou tout ça. C'est
on retourne dans la spiritualité. C'est quelque chose qui est bien au-dessus, qui n'est pas dans ce qui est visible, qui est dans ce que l'on vit, finalement, dans ce que l'on pratique finalement au quotidien. Et quel que soit, à partir du moment où il y a un respect avec soi, finalement, une sorte de sincérité.
Exact. Chaque homme, sur cette planète, chaque homme, chaque femme devrait vivre sa spiritualité et non se fermer dans des codes ou des religions ou des églises. Mais après, il y a des gens qui ont besoin de ça. Mmh. Et je respecte. Certaines personnes ont besoin d'être encadrées, d'être dans une église, d'être dans un mouvement de dogme. Cela est bien aussi parce qu'il ne faut pas critiquer. Il faut juste que chaque personne trouve sa foi et sa joie. Mais moi, pour moi, un homme libre est un homme qui a embrassé et compris toutes sortes de spiritualité. Parce que quand tu regardes tous les grands leaders, ils ont fait ça, ce chemin. Tous les grands leaders politiques ou religieux, ils ont été dans tous les pays, dans toutes les cultures, pour prendre un peu, comme tu as dit au début de ton émission. Et quand on regarde ces hommes, si on veut être à leur image, Jésus-Christ, tous ces hommes-là, tous ces grands-là, Bouddha, tous ces gens, ils ont voyagé. Et tous ces hommes qui dirigent le monde sont des hommes qui ont voyagé. Ils ont voyagé physiquement, ils ont voyagé mentalement, ils ont voyagé dans les études. Ils ont voyagé dans les livres, ils ont voyagé dans toutes sortes de choses pour pouvoir se retrouver.
Finalement, il y a un mot à travers tout ce qu'on dit depuis quasiment 45 minutes qui est très important, c'est éducation. Parce que si on recherche, si on étudie, si on veut aller à la recherche de ses sources, c'est quand même un mot qu'on ne peut pas retirer. Ouais. Boris, je te vois souffler, dis-moi.
Tu vois souffler. Ouais, l'éducation est la clé. Mais en fait, ouais, c'est ça. Mais l'éducation, c'est pas simplement un rapport vertical au savoir, quoi. C'est pas quelqu'un qui va autoritairement, te faire ingurgiter un savoir qui t'est étranger. L'éducation, ce que disait Jornik, c'est l'auto-éducation aussi. C'est l'éducation par expérience.
Mais c'est ça, c'est aller chercher par soi-même, c'est pas imposé. Juste, on va faire une petite pause musicale, on parlait d'un retour à l'Afrique.
Les Rasta disent « each one teach one », donc c'est plus un rapport horizontal, tu vois. Chacun partage de savoir, des expériences mutuelles, respectives, des uns des autres, quoi.
Est-ce que disait Jornik, qu'on n'est pas là pour critiquer, mais chacun se trouver et avancer. Il y a un superbe proverbe tibétain qui dit « ça se passe ».
comme ça, moi.
Allez, tout de suite, on va aller du côté du studio One Roots, et là qui a enregistré aussi pas mal de Rasta, malgré tout ce qu'on peut dire sur Sir Coxon. Et c'est toi qui l'as choisi, c'est Zoot Smith qui nous chante African Challenge.
Scully Sims, ouais.
C'est voilà, qui d'habitude œuvre sous le nom de Scully Sims, mais là,
il y a des. C'était un de ses premiers titres à l'époque, ouais, c'était Zoot. Mais il est passé chez nous il y a pas longtemps. Il était là, dans le coin. Tu te souviens, Julien, on s'était croisé.
Excuse-moi, Julien, je t'ai pas
mis. Il était à Bonneuil-Matour, là, avec les Jamaica All-Stars.
Exactement, ouais. C'était une bonne partie de plaisir.
Eh bien, tout de suite, on s'écoute African Challenge dans Culture Dub. Zoot Smith, toujours en compagnie de Johnny Jolik, de Boris Lutani, de Nico, de Margot, qui fait des photos, qui peut-être vous les envoie. Moi, je suis derrière le micro. De Loub, ça se passe comme ça. Yes, Zoot Smith, il m'a Culture Dub.
C'est actif, c'est actif.
Yes. Satana. You love. Live on Direct ce mardi 15 janvier 2013 avec cette première heure consacrée à Rastafari, de la révélation à la révolution, en compagnie de Johnny Jolik, en compagnie de Boris Lutani, dans les studios de Radio Pulsar, Live on Direct. Et on continue tranquillement en musique avant de retrouver Johnny et Boris juste après. On va s'écouter Révélation, justement. Ça, c'est un petit choix que j'avais fait pour le livre de Boris, Révélation. Et c'est Barrington Levy qui nous chante ça. Écoutez ce morceau-là dans Culture Dub, Live on Direct, 95.9 FM, www.radio-pulsar.org. Révélation, Barrington Levy.
Suffering from our food, we got no humanity. conversation. We can't get no human right. We can't get no human right. Yeah. I want to know.
Ah yes, a revelation, Barrington Levy. Vous savez quoi? On va continuer à remonter en musique. On va retrouver Boris et Jornik d'ici quelques minutes. On va s'écouter Naya Bengi. Naya Bengi, on en a parlé avec Boris juste avant et avec... avec Jornik aussi, ses rythmes de percussion, ses rythmes buru. On vous a mis, il y a même Sancho qui vous a mis un super truc sur les tambours Naya Bengi, drum, percussion Rasta. Et ben tout de suite, on va s'écouter le morceau Naya Bengi en compagnie de Jimmy Riley. Rien que pour vous. Et après, on aura une petite surprise. On va parler du voyage de Boris Lutani en Jamaïque et on vous mettra un petit enregistrement privé réalisé dans les Groundations des montagnes. Naya Bengi, Jimmy Riley dans Culture Dub. Education in a culture dub ce soir.
One or two might fall today, but ten more rise up each day. The concept of Jah cannot die. Rasta will be triumphant. Well, I dream suffer abuses daily. Can't praise Jah.
Bengi, Jimmy Riley, on va retrouver Boris Lutani tout de suite. Vous êtes bien à l'écoute de Radio Pulsar Culture Dub sur le 95.9 FM, www.radio-pulsar.org. Je viens de voir, moi, parce que je parle beaucoup, j'avais pas vu. Il y a Margot et Loup qui vous mettent plein de photos live and direct, des photos prises en direct dans les studios, des photos du voyage de Boris Lutani du côté de la Jamaïque. Et Boris, là, tu as réalisé le rêve de tout passionné de culture Rasta, finalement, d'aller enfin sur cette île magique là-bas, une petite île au milieu des deux Amériques. Une petite île où est sorti Bob Marley, où est sorti la culture Rastafari, où sortent de nombreux artistes. Voilà, une petite île où se passent de nombreuses choses à la grandeur peut-être un ou deux départements. Imagine si tout ça sortait de la Vienne et de la Haute-Vienne.
Mais nous aussi, hein, attention, on a les baudets du Poitou. Hein, tu vas dans le Marais Poitevin, c'est dépaysé. Hein.
Alors tu es parti là-bas en mars 2012. Raconte-nous un peu ce voyage. Ça devait être un grand plaisir. Ça devait être.
Ouais, c'était du plaisir. C'était aussi beaucoup d'appréhension parce que quand tu nourris comme ça un petit peu, tu vois, depuis long time, des projets là-dessus, après t'as peur toujours d'être déçu, d'être frustré parce que t'as pas accompli, mais bon, c'est vrai que j'avais des bons contacts et donc je suis parti dans les montagnes au cœur des communautés Rastafari de l'île.
Alors dans les montagnes, dans ces Blue Mountains où se passe la... t'es allé vraiment dans le
Sujet.
Ouais,
dans les Blue Mountains et partager un petit peu leur vie, quoi. Et bon, il faut... ça s'est bien passé, franchement, ça a été super. De 15 jours, bon, j'ai pas arrêté de courir, hein, pour... c'était pas du tout Sex and Son, hein. c'était très ascétique, mais c'était super sympa. Et puis j'ai appris plein de choses, j'ai rencontré plein de gens super.
T'as pu réaliser des interviews, rencontrer les communautés ou poser les questions qui te questionnaient, entre guillemets.
Voilà, Rasta et non Rasta, j'ai rencontré aussi les gens de la montagne... tu vois, indépendamment du mouvement Rasta, au gré des rencontres et des hasards, en fait, hein, sur des petits chemins comme ça, à flanc de montagne, c'était vraiment super. Ouais.
Tu retourneras ?
Je sais pas, j'espère.
T'espères. Ouais. Écoute, tu nous as fait une super surprise ce soir pour tous les auditeurs de Culture Dub. C'est une belle surprise et c'est vraiment un très beau cadeau. Non, c'est toi. Parce que tu nous as ramené, rien que pour nous, un enregistrement. T'as pu participer. Alors, on parlait de Naya Bengi. T'as pu participer à des Groundations, justement. Alors, comment c'est passé? C'est dans des camps bobos? C'est dans des...
Ouais, en fait, au sein du mouvement Rasta, il y a différentes sensibilités qui s'expriment. Et donc les bobos, c'est sans doute aujourd'hui la mouvance qui est la plus traditionnaliste. Et chaque année, en mars, ils célèbrent la fondation de leur ordre, puisque c'est comme ça qu'ils désignent leur mouvement. Et c'est une communauté Rastafari, un peu monastique d'ailleurs, qui vivent comme ça un petit peu en autarcie, en autosuffisance. Et ça dure toute la nuit, donc tu as une cérémonie comme ça, Naya Bengi, toute la nuit, on a... des louanges, des chants, les percussions Naya Bengi jusqu'au petit jour. Et voilà.
Alors, ceux qui prennent la parole, on va entendre. Là, on va entendre Priest Morgan, que tu as enregistré.
Priest Morgan, et puis un certain nombre de.
C'est quoi ? Il y a une hiérarchie ? Qui prend la parole ? Qui le veut ? Enfin, on s'imagine que c'est comme
non,
ça.
Non. Chez eux, non. Tout est prédéterminé. Chacun a une place définie. C'est vraiment dans le courant Rasta. Ils ont vraiment une place à part, quoi. Je dirais même que voilà, ils occupent. Ils ont créé. On parlait de religion tout à l'heure, tu vois. C'est vrai qu'ils sont un peu plus orientés vers cette religiosité, cette ritualisation quotidienne, etc. C'est des gens qui sont extrêmement... C'est presque un fonctionnement ecclésiastique, en fait. Hein.
Ils sont très pieux, finalement.
Ils sont extrêmement pieux, mais très sympathiques. Moi, ils m'ont accueilli vraiment les bras ouverts. Mais tu sens que voilà, tout leur quotidien est extrêmement normé, ritualisé, etc. Mais voilà, c'était très sympa.
Eh ben, tout de suite, on va s'écouter un enregistrement fait par tes propres soins du côté des Blue Mountains en Jamaïque en mars 2012. Enregistrement dans une nuit de Groundation en compagnie de Priest Morgan. C'est rien que pour vous. Attention, c'est maintenant, c'est naturellement mystique. Et c'est dans Culture Dub. Priest Morgan, enregistré par Boris Lutani en Jamaïque, live and direct dans Culture Dub. Boris, pour tous ceux qui se demandent d'où viennent les rythmes aussi, parfois qu'on entend dans les soirées dub, tout ça, écoute, rien que le mouvement des percussions là, on l'a en écoutant.
Bah là, on sent vraiment véritablement ce lien ombilical, quoi, rythmique avec l'Afrique. Et d'ailleurs, ils le font tourner vers l'Afrique. C'est-à-dire que là, on voit que ça relève plus du dévotionnel, des louanges que de l'artistique. Tu vois, c'est pas, il y a pas de studio d'enregistrement, rien. C'est sous les cieux, dans les montagnes. Tu vois, il y a... Et en fait, ils sont tournés vers l'est, en fait, hein, tournés. Il y a la mer, ils sont au sommet des montagnes, il y a la mer en face. Et c'est l'Afrique qu'ils regardent. Hein, donc on disait que c'est l'histoire du mouvement Rastafari, c'est aussi essayer de combler le déracinement originel de la déportation, quoi. Parce que c'est ça. Tout à l'heure, tu me demandais quand est-ce qu'il y a le mouvement Rastafari. Je t'ai dit historiquement, c'est les années 30. Mais en fait, c'est bien antérieur à ça. Hein, puisque ça remonte à toute cette histoire sombre un petit peu de ce passé douloureux.
De l'esclavage finalement, où il y avait ces bateaux qui partaient. Conseille le livre Racine par exemple pour s'immiscer dans cette histoire.
Ces traces cicatricielles là, du passé qui ne passera jamais en fait. Hein, c'est un passé qui ne passera jamais. Et c'est ça qu'il porte. Et en fait, quand le moment est né, en Jamaïque, personne n'avait envie d'entendre ce message. Parce que même au sein de la population noire, il y avait un tabou presque mémoriel, parce qu'on n'avait pas envie de se souvenir de ce péché un petit peu originel de la mémoire collective noire, quoi. Et bien sûr, le gouvernement colonial faisait tout
pour ne pas s'en rappeler.
Pour maintenir l'amnésie existante.
La colonisation positive, tu connais. Voilà,
c'est ça, c'est la colonisation positive. Et les Rastafari, ils ont dit non, on va se coltiner à la réalité, quoi.
Alors, je m'imagine très bien, et j'imagine l'émotion que tu peux ressentir même en le réécoutant et en te plongeant dedans. Parce que, tu sais, moi, quand je l'écoutais, quand tu me l'as passé pour l'émission, et je l'écoutais, et ça m'a rappelé, à La Réunion, on va souvent dans les cirques, tu sais, et puis parfois, comme ça, au gré des rencontres, tu finis et dans des chants maloya traditionnels, qui sont des chants de transe, de tambour. Et là aussi, il n'y a plus de studio, il n'y a plus que le ciel, les étoiles, le cirque autour.
Je suis sûr que dans le cirque de Mafate, il y a quelques Rastafari. rastas isolés ici et là.
Moi, je suis resté 3 mois avec des rastas, ouais. Avec un super patriarche rasta qui avait décidé de refonder un village rasta, un village, mais avec des rastas, comme était à l'époque de ses grands-parents avec les huttes en paille, mais pour en faire quelque chose d'éducation, de culturel. Ouais, ouais. Et on avait passé des nuits ensemble à jouer comme ça du maloya où tu contrôles plus rien, tu lâches. Et ouais. C'est le corps qui parle, c'est le tambour, le son de la terre sur, avec les peaux de vache, le triangle, ces petits sons et cette spiritualité finalement où chacun s'en va où il veut, on regarde plus si c'est juste ou si c'est pas, chacun le fait.
Ouais, voilà,
et quand tu es en russe comme ça, tu te rends compte que finalement c'est très juste parce que chacun joue au meilleur de lui-même, on est bien, il y a une sensation comme ça qui est assez géniale. Merci à toi Boris.
Merci.
Écoute, ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble et c'est même déjà trop court.
Tu m'autorises une petite dédicace?
Ah mais je t'en autorise même plein quoi, tout ce que tu veux, tu as le micro, c'est
special dedication to Jax. Of course, Jack Somiak.
Jack Somiak, qui est, on va en reparler, mais qui est
qui nous écoute en ligne de Washington DC.
Big up Jack et big up pour tout le travail réalisé depuis l'exposition, pour ce livre et
exactement.
Tout l'activisme pour faire reconnaître aussi et découvrir ce qu'est Rastafari, quoi.
Voilà.
Autrement que par juste ce qu'on a l'idée souvent,
ouais,
les jeunes aujourd'hui.
C'est ça le bouquin, en fait, l'idée c'est que dépasser un peu voilà le champouinage intellectuel de la formule 3 en 1 toujours qu'on entend à longueur de temps, hein, dreadlocks, kanja et reggae, bah Rasta ça va bien au-delà de ça, c'est un mouvement qui est intéressant quoi, culturellement, philosophiquement, spirituellement, historiquement, etc., à plein de niveaux. Et puis voilà, une petite dédicace aussi pour la princesse Saba, pour la petite reine Fatia, pour Sister Ruda, pour Ras Mehdi, pour Ja Pascal, pour Bongo Leo, of course.
Là, tu cites plein de gens, et tu connais,
etc.,
c'est la famille, tout,
tout
ça.
Le monde,
quoi.
Tout le secteur rail de Poitiers.
Voilà, et on rappelle juste que le bouquin est disponible aux éditions Geoffrin Garin. Alors, on peut le commander sur le site Rasta Africa, hein, je
Rastafrica,
crois.
Rastafrica.fr ou voilà. Roots Blog. reggae.org.
Voilà, un gros big up à Greg qui nous écoute souvent aussi de Roots Blog Reggae, Jack Greg. Et voilà, le bouquin, ça s'appelle Rastafari, de la révélation à la révolution. Jax Omiak, Boris Lutani, édition Geoffrin Garin. Super bouquin, ça vaut 19,90 et franchement, ça vaut le coup parce qu'on est là pour découvrir ce qu'est vraiment Rastafari. Même si vous avez lu plein de choses, et ben là, on plonge dans l'intérieur de différents thèmes de ce qui peut nous faire apprendre encore plus.